Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
La procédure des notifications de fourniture de matériel et d'assistance militaire qui empêchait la RDC à se doter librement des équipements militaires est levée. C'est l'une des résolutions votées hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a aussi renouvelé le mandat de la MONUSCO pour une année. Et puis, 9e conférence des gouverneurs se tient ce jeudi en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Et pour cela, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce mercredi dans la capitale de la province de l'Équateur, où déjà des gouverneurs et autres experts de la présidence et du gouvernement sont sur place. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Madame Bintou Keïta, patronne de la MONUSCO. Elle s'exprime sur les deux résolutions adoptées hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la levée de la procédure et notification des fournitures de matériel et le renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les sommets. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé ce mardi le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo pour un an. Ce mandat comporte trois priorités, la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. Une autre résolution adoptée concerne la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire qui est levée. Pour ce qui concerne cette deuxième résolution, Madame Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO, estime que c'est une grande victoire diplomatique pour le gouvernement congolais. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
Cette nouvelle résolution qui a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil focalise sur ce que nous appelons la protection des civils, très clairement, sur le PDDRCS et sur la réforme du secteur de sécurité comme étant les éléments essentiels de l'accompagnement de la MONUSCO. Il y a vraiment trois tâches prioritaires qui doivent utiliser toutes les ressources, l'expertise, les moyens que nous avons pour mettre en œuvre et obtenir des résultats le plus rapide possible en collaboration, en coopération avec les autorités et les partenaires, que ce soit au niveau national, provincial ou local.
Il faut dire qu'il y a une autre résolution qui a été adoptée qui concerne la levée de la notification sur les armes.
Alors là, on peut parler d'une belle victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Nous, en tout cas, en tant que système des Nations Unies et MONUSCO, nous accueillons favorablement cette nouvelle résolution qui répond en fait à la demande de la RDC.
En réaction, le gouvernement congolais, à travers un communiqué publié hier mardi, salue l'adoption de cette résolution levant la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire. Cette résolution vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires, devant permettre aux FARDC d'avoir des capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du M23, indique le communiqué. Quant au renouvellement du mandat de la MONUSCO, le gouvernement dit prendre acte tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du plan de retrait progressif et échelonné conformément à la volonté exprimée par la population congolaise, conclut le communiqué. Alors, le Gabon figure parmi les pays qui ont voté aussi la résolution levant la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire sur le gouvernement congolais. Son ambassadeur au Conseil de sécurité estime que cette décision va lever toutes les entraves à la capacité de la RDC à donner une riposte plus efficace aux groupes armés qui commettent notamment des atrocités dans l'est du pays. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le Gabon a voté pour les deux résolutions adoptées aujourd'hui. Notre vote est une marque de soutien à la MONUSCO et aux efforts déployés par la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta. Notre vote reflète surtout l'expression de notre plaidoyer constant pour une réelle adéquation entre l'action du Conseil et les aspirations légitimes du peuple congolais à la sécurité. Nous sommes persuadés que la levée de l'obligation de notification préalable va démanteler toutes les entraves à la capacité de la RDC à donner une pleine riposte plus efficace aux groupes armés qui alimentent le pillage des ressources et commettent des atrocités sur les populations civiles à l'est de la RDC. Des groupes armés qui sont lourdement équipés et qui n'ont aucune contrainte et ne respectent aucun embargo. Il s'agit là d'une réelle avancée qui permet aux autorités congolaises d'assumer la plénitude de leurs responsabilités. Ce Conseil a fini par comprendre que restreindre la marge de manœuvre d'un gouvernement dirigé par des autorités démocratiquement élues, qui fait face à des défis sécuritaires de grande ampleur, n'est pas une bonne chose.
Pendant 7 ans, en Ituri, plus de 150 casques bleus, dont 14 de l'unité de police constituée sénégalaise de la MONUSCO, ont reçu ce mardi des médailles de mérite pour leur apport dans la protection des civils dans cette province en proie aux conflits armés. Ces soldats de la paix sont arrivés au terme de leur mandat en Ituri après une année de service rendu dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au camp militaire de Ndoromo, le gouverneur de province a salué l'intervention des casques bleus, surtout dans les cadres de l'appui en équipement et de renforcement des capacités de la police congolaise. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le 11 novembre 2021 que cette unité a été déployée en Ituri pour appuyer les efforts des autorités congolaises dans le cadre du maintien de la paix en province. Parmi leurs tâches, il y a la protection individuelle des agents des Nations Unies, l'organisation des patrouilles de sécurisation ou encore des sessions de renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Le chef de la composante de la police de la MONUSCO, le major Maudi Beretz, a remercié ces casquets bleus pour leur dévouement et surtout pour le strict respect des droits de l'homme. De son côté, le gouverneur de province de l'Ituri a salué la collaboration entre les polices sénégalaises et congolaises, ce qui a permis, selon lui, de lutter contre l'insécurité à Bounia. Le général Johnny Luboy en Kachama.
Le contingent sénégalais est la preuve la plus évidente de la bonne collaboration entre nos différentes unités de la PNC et l'UNPOL. La dotation à la PNC Ituri des matériels anti-émeute, la formation des policiers et les patrouilles conjointes pour l'accomplissement de ces missions régaliennes de protection des personnes et de leurs biens à travers la province.
Signalons que le chef de la composante de la MONUSCO a rencontré ce mardi les représentants de la société civile pour échanger autour du rôle de la police dans la restauration de la paix en Ituri. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce mercredi 21 décembre à Mbandaka pour présider la conférence des gouverneurs qui commence le jeudi 22 décembre. Il s'agit de la toute première mission d'itinérance du chef de l'État à Mbandaka, mais la deuxième dans l'espace Grand Équateur après sa visite à Zongo en 2020. Gouverneurs de province, experts de la présidence et du gouvernement central ont pris leur quartier à Mbandaka depuis plusieurs jours pour cette conférence des gouverneurs. D'autres détails avec vous, Innocent Fadili.
La ville de Mbandaka se prépare à accueillir chaleureusement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Selon la presse présidentielle, le couple présidentiel va communier avec la population de Mbandaka à travers un grand meeting à l'esplanade de la maison communale de Wangata, au centre-ville de Mbandaka. Au cours des travaux de la 9e session, chaque gouverneur des provinces va présenter l'état des lieux de son entité administrative et surtout les perspectives pour l'année 2023. Organisé sous le thème « Le programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces », la conférence des gouverneurs connaîtra, outre la participation des gouverneurs des provinces, l'intervention de quelques membres du gouvernement et d'autres partenaires extérieurs.
On reste dans la province de l'Équateur en rapport avec cette 9e conférence des gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi 22 décembre à Mbandaka. Radio Okapi poursuit sa série de reportages sur la région du Grand Équateur. Le Grand Équateur est une communauté de plus de 10 millions d'habitants répartis dans les 5 nouvelles provinces de l'Équateur, Mongala, Nord et Sud-Ubangi, ainsi que de la Chuapa. Malgré les nombreux projets de réhabilitation par le gouvernement central, le réseau routier de la région reste pire que celui de l'époque coloniale. Plusieurs bourbiers, des ponts cassés, pas de bac, aucune route nationale asphaltée, difficile de voyager, surtout pendant la saison pluvieuse. Un récit de Paul Richard Malengela.
De Zongo au sud de Bangui, à Bundoki dans la Mongala, en passant par Gemena, Lisala et Bumba, soit de Mbandaka à Bouende Ikela dans la Chuapa, ou encore de Yakoma à Gbadolite dans le nord au Bangui, aucun kilomètre de route nationale bitumée. Partout, l'office des routes manque de moyens, son matériel devenu vétuste. Le financement du Foner tombe sporadiquement, même pour les travaux de cantonnage manuel, selon les attributaires. Avec la longue saison pluvieuse actuellement, même les quelques travaux réalisés dans le cadre des 100 jours du chef de l'État n'ont pas survécu. Voyager alors entre Mbandaka et Boende relève du parcours des titans. Au Grand Équateur, le voyage aérien est aussi périlleux malgré l'aéroport international de Mwanda-Gbadolite. Il faut un rallye jusqu'à l'aéroport de Gemena pour la partie nord, soit à l'aéroport de Mbandaka pour la partie sud afin de voyager. Les aérodromes de Zongo, Boende, Lisala, Bumba et Bassankoussou reçoivent à peine des vols non réguliers et nécessitent une modernisation. Aujourd'hui, dans les cinq provinces, la population emprunte plus la voie fluviale à bord des baleinières ou convois de pirogues, faute de bateaux courriers de l'ex-Sonatra. Et chaque semaine, on déplore des décès par naufrage de ces embarcations de fortune. Récemment, des dizaines de personnes ont perdu la vie sur la rivière Ruki en amont de Mbandaka lorsqu'une baleinière a coulé après sa collision avec un bateau. Mbandaka, pour Chamalingela, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le Premier ministre congolais garantit la CENI quant à la sécurisation du processus électoral qui démarre ce 24 décembre par l'enrôlement des électeurs. Jean-Michel Samalou Kondé rassure également la centrale électorale de l'accompagnement financier de tout le processus par le gouvernement. Il a affirmé ce mardi lors de sa visite à cette institution afin de se rendre compte de disponibilité de la CENI à amorcer les opérations d'enrôlement dans le délai. D'autres détails avec vous, Billy Yvan Lutumba.
C'est après une présentation et simulation d'enrôlement avec le kit à travers l'application nommée Pré-Rap CENI que Samalou Kondé a manifesté sa satisfaction de ce dispositif mis en place, lequel permet la mutualisation des opérations d'enrôlement et d'identification de la population.
Nous avons voulu un principe dit de mutualisation qui va nous amener vers la constitution du fichier d'identification de la population, fichier qui sera d'ailleurs géré par l'ONIP, qui est l'Office national d'identification de la population. C'est depuis 2006 que ce principe avait été énoncé, mais il a chaque fois été un rendez-vous manqué. Et on a parlé de la particularité de la machine qui va servir à l'identification, à l'enrôlement, parce qu'elle pourra poursuivre son travail avec l'Office national de l'identification de la population.
Dans son adresse devant les membres de la CENI, le Premier ministre a souligné que son gouvernement est engagé à renforcer les compétences des forces de sécurité pour que ces élections bénéficient d'une bonne sécurisation. Insistant sur l'exigence du respect des délais pour la tenue de tout le scrutin, Samalou Kondé invite à son tour la population congolaise à un enrôlement massif.
Parlant toujours de la CENI, celle-ci a mis en place une application numérique dénommée Pré-Rap CENI, téléchargeable gratuitement sur Google, App Store et Google Play. Cette application permet aux électeurs de s'enregistrer à l'avance pour ne pas perdre beaucoup de temps dans les centres d'enrôlement. Comment fonctionne cette application? Quelles sont les informations que le requérant doit fournir pour s'enregistrer? Yves Kota, directeur informatique à la CENI, explique au micro de jeudi Daniel Kacham.
Cela part du constat que le goulot d'étranglement dans les centres d'inscription se trouve généralement auprès de l'opérateur de saisie. Afin de faciliter le travail de l'opérateur de saisie, vous avez la possibilité en tant que requérant de pouvoir, à partir de cette application, enregistrer toutes les informations de là où vous serez. Et après enregistrement de ces informations selon une séquence donnée, un QR code sera généré à la fin. Vous allez présenter auprès de l'opérateur de saisie du centre d'inscription afin d'obtenir votre carte d'électeur et de faciliter votre enregistrement. Il y a des informations utiles et nécessaires pour l'enrôlement des électeurs. Ces informations se font selon les séquences suivantes. Nous avons d'abord les informations de l'identité de l'électeur. Pour l'identité de l'électeur, les informations obligatoires sont celles-ci. Le nom, le poste-nom, le prénom, le genre, le lieu et la date de naissance, le nom du père et le nom de la mère. Donc toutes les autres informations que vous voyez sont liées au fichier général de l'état civil et elles sont pour le moment pas obligatoires. Couleur des yeux, de la taille de la personne, ça c'est lié au fichier général de la population que vous pourrez compléter lors de l'opération de l'ONU. Après les identités, vous serez obligé de taper les informations liées à vos origines. Pour les origines, vous devez renseigner sur votre province, votre territoire, votre ville d'origine, votre secteur, votre chefferie ou votre commune d'origine. Ce sont là les informations obligatoires pour les origines. Vous pouvez ne pas connaître votre groupement ou votre village, mais les trois premières informations, vous devez les donner.
Et puis, coup d'envoi hier mardi à Lubumbashi du congrès de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Plusieurs centaines de délégués venus de toutes les provinces du pays et de la diaspora y prennent part. Moïse Katumbi a à cette occasion brossé sommairement ce qu'il compte faire pour relever les pays. C'est notamment l'instauration de la paix, la sécurité et la création des emplois pour les jeunes. Il a aussi épinglé l'implication de la femme dans le développement du pays. C'était avant de confirmer son intention de briguer la magistrature suprême en 2023. Pour cela, il a sollicité l'accompagnement de tous ses membres dans cette démarche. Pour l'heure, les participants poursuivent les travaux en Carrefour. On revient ici à Kinshasa. Un culte œcuménique en faveur des sinistrés de la pluie diluvienne du mardi 13 décembre dernier a été organisé ce mardi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le président de la République accompagné de la première dame, le premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les représentants de familles des victimes ont pris part à cet office religieux. Après les prières des différents chefs religieux, le représentant de familles victimes a remercié les chefs de l'État pour son soutien à leur endroit. Bungule Bolotoi Tizo a aussi sollicité que le gouvernement mette à leur disposition un site vers Kimpoko pour leur permettre de construire des abris, plusieurs familles ayant tout perdu. On écoute Bungule Bolotoi Tizo dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Monsieur le Président, je vous remercie sincèrement pour votre soutien financier, mais aussi pour avoir décrété le deuil national de 3 jours. Nous tous, nous vous remercions pour ces gestes et nous vous demandons de ne pas nous abandonner. Accompagnez-nous jusqu'à la fin. Voyez comment les enfants sont morts. Aidez-nous vraiment. Nos enfants passent nuit à la belle étoile. Donnez-nous même un site au niveau de Kimpoko. Nous irons. Et le peu de moyens que nous avons peut nous aider même à construire des abris pour protéger nos enfants. Je profite de cette occasion pour vous demander de recevoir cette délégation des familles des victimes. Nous sommes vraiment prêts pour ça, pour que vous puissiez nous accompagner, Monsieur le Président. Ne nous abandonnez pas.
Actualité internationale.
Les soldats somaliens envoyés clandestinement en Érythrée en 2019 pour y être entraînés vont-ils bientôt rentrer dans leur pays? C'est en tout cas ce qu'a déclaré lundi 19 décembre le chef de l'État somalien Hassan Cheikh Mohamud en marge d'un déplacement officiel aux États-Unis, assurant qu'ils commenceront à rentrer fin décembre et seront tous rentrés en janvier. Mais de nombreuses interrogations et zones d'ombre demeurent.
L'invité.
Comme annoncé, notre invitée dans cette édition du journal est Madame Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Elle s'exprime sur les 2 résolutions que le Conseil de sécurité a adoptées hier, sur le prolongement du mandat de la MONUSCO pour 1 an, mais aussi la levée de la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire. Madame Bintou Keïta s'entretient ici avec Alain Irung. Suivez.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les priorités fixées à la MONUSCO par le Conseil de sécurité dans cette nouvelle résolution?
Cette nouvelle résolution qui a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil focalise sur ce que nous appelons la protection des civils, très clairement, sur le PDDRCS et sur la réforme du secteur de sécurité comme étant les éléments essentiels de l'accompagnement de la MONUSCO. Il y a vraiment 3 tâches prioritaires qui doivent utiliser toutes les ressources, l'expertise, les moyens que nous avons pour mettre en œuvre et obtenir des résultats le plus rapide possible en collaboration, coopération avec les autorités et les partenaires, que ce soit au niveau national, provincial ou local.
Il faut dire qu'il y a une autre résolution qui a été adoptée, qui concerne la levée de la notification sur les armes.
Alors là, on peut parler d'une belle victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Nous, en tout cas, en tant que système des Nations Unies et MONUSCO, nous accueillons favorablement cette nouvelle résolution qui répond en fait à la demande de la RDC.
Le Conseil de sécurité encourage les initiatives nationales et régionales en ce qui concerne le retour de la paix en RDC. Quel rôle la MONUSCO va jouer, que ce soit en ce qui concerne Luanda ou Nairobi?
Alors la MONUSCO et le système des Nations Unies d'une façon plus large accompagnent déjà les processus de Nairobi depuis le mois d'avril dernier et accompagnent aussi le processus de Luanda. Et c'est pas simplement la famille des Nations Unies en RDC, c'est aussi le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs qui est basée à Nairobi. Donc concomitamment, nous soutenons le secrétariat conjoint entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Et nous soutenons aussi le processus de Luanda à travers maintenant ce qui est appelé dans la feuille de route de Luanda le mécanisme ad hoc de vérification qui est déjà en place en fait à Goma.
Le M23 occupe plusieurs localités au nord Kivu. Quel est le message que vous pouvez adresser à ce groupe?
Le message que j'adresse personnellement et qui a été en fait le message à la fois de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la facilitation de président Uhuru Kenyatta, donc qui est maintenant le facilitateur pour la communauté de l'Afrique de l'Est, mais également la même chose avec le processus de Luanda et le président João Lourenço, le Conseil de sécurité des Nations Unies, les commissions économiques régionales, que ce soit SADC, communauté de l'Afrique de l'Est, l'Est, ECAS, mais aussi l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, il y a aussi le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Et peut-être que j'en oublie, mais ce que je veux montrer par là, c'est que tout le monde depuis avril de cette année, et moi particulièrement le 1er juin en conférence de presse à Goma, j'ai dit très clairement, et c'est ce que je vais répéter, M23, s'il vous plaît. L'insécurité à l'est de la RDC, ça suffit. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril, qui est vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités parce que maintenant vous êtes à plus de 80% d'occupation du territoire de Rutshuru. Vous devez vous retirer. Vous devez aller dans le processus du PDDRCS. Et vous devez aussi entrer là où vous étiez en novembre 2021, quand vous avez commencé à attaquer les forces de sécurité et notamment la FARDC, fin novembre 2021, c'est-à-dire Mont-Sabino. Donc, ce que je dis, je ne suis pas la seule, c'est toutes les institutions depuis plusieurs mois ont passé le même message et j'espère que le communiqué de Luanda du 23 novembre va être exécuté et pleinement exécuté parce que les plus de centaines de milliers de déplacés internes dans le Rutshuru, c'est trop.
2023 est une année électorale pour la RDC. Quel rôle la MONUSCO va-t-elle jouer ?
Essentiellement, ça va être un rôle de bons offices qui consiste à parler avec toutes les parties prenantes dans le pays, que ce soit les autorités, les partis politiques, les groupes de femmes, les femmes qui veulent participer au processus politique, les jeunes qui veulent participer au processus politique, les religieux, vraiment toute la société civile et aussi les partenaires qui sont engagés à accompagner l'éducation civique et l'observation électorale. Parce que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que on puisse avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées et qui vont se dérouler dans une manière qui est complètement inclusive.
Pour terminer, Madame, Kinshasa a été frappée par des grandes inondations. Avez-vous un message pour les victimes?
Vous savez, les images que j'ai vues des inondations, comment ça s'est passé, c'est absolument horrible, ce qui a circulé comme image. Et juste de penser aux dernières heures de ces personnes qui ont perdu la vie à cause de ces inondations, c'est vraiment terrible. Et donc, je présente mes condoléances les plus sincères de toute la famille des Nations Unies et ainsi que de la MONUSCO aux familles éprouvées, au gouvernement et à la population en général, en sachant que les Nations Unies restent engagées aux côtés des autorités pour donner notre contribution afin de pouvoir le plus vite possible restaurer ce que l'on peut restaurer et peut-être accompagner aussi dans une forme d'expertise avec les agences qui ont des spécialisations sur ces questions.
Madame Bintou Keïta, je vous remercie.
Je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition du journal, mise en onde par Alain Ngoy. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Noëlla Luzitu Kabambi et la supervision d'Alain Irung Mushinj. Merci également à vous pour votre particulière attention.